C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux, alors quotidien sauf l'été, puisque l'été on passe au format hebdomadaire. Vous à la plage, nous en studio, c'est ça le principe, et on vous offre chaque semaine votre veille social media servie sur un podcast. Salut Adjane, comment vas-tu?
Salut Thibaut, salut à tous qui êtes en vacances, hein. Les vacances se passent bien aussi ici, hein. Alors ça ressemble beaucoup au travail, hein, quand même, hein. Là, les vacances, moi j'ai tous les jours on vient au bureau, tous les jours on répond à des clients, j'ai quand même l'impression que c'est un peu le travail.
Oui, bah nous on bosse, mais on bosse en short.
Ça fait plaisir. Moi c'est ce que je kiffe l'été, tu vois, c'est là quand on arrive dans cette période-là que tout le monde part un peu et que toi tu bosses. Mais bon, tout le monde est détendu, ouais. C'est un peu plus cool et ça fait
plaisir. Est-ce que vous aussi vous bosser en short? Dites-nous sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui bossent encore, dites-nous ça sur @supernatif.
Est-ce que certains bossent en claquettes chaussettes? Moi, je veux savoir si c'est possible. S'il y a des mecs qui bossent, envoyez-nous vos photos claquettes chaussettes.
Où sont les vrais? Allez, c'est parti. Petite veille social media. Que s'est-il passé cette semaine sur la planète social media? Je vais commencer évidemment avec Twitter. Twitter qui s'est fait quand même très, très, très sérieusement hacker. Histoire dingue, ouais. Et semaine très compliquée pour Twitter.
Hein. Énorme. Ouais, c'est arrivé en fin de semaine dernière, si je dis pas de bêtises.
Exactement. Mercredi dernier, hein, pour récapituler la situation, plusieurs comptes de célébrités ont commencé à tweeter des messages tout chelous, hein, tous similaires, et concernant un cadeau en Bitcoin. Donc, c'est un petit peu étonnant. D'autant plus que ça venait pas de petits comptes, mais plutôt du très très lourd. Hein. Barack Obama, Jeff Bezos, Kim Kardashian, Elon Musk. Au total, 130 comptes Twitter certifiés.
Le compte Twitter lui-même.
Twitter lui-même. Voilà, alors le principe, c'était que les tweetos étaient invités dans ces messages à envoyer des bitcoins à des adresses mentionnées dans les tweets. Et en échange, il leur était promis de recevoir le double du montant avancé. Voilà, bon.
Oh, sympa.
C'était tentant. Je sais pas, t'as mis des sous ou pas?
Moi, j'aurais mis des sous direct. Dommage, j'ai pas de compte certifié, mais sinon.
Voilà, on aurait pu se dire que l'arnaque était évidemment trop évidente et que les gens auraient pu s'en rendre compte. Sauf que, eh bien non, les gens ne pensent pas toujours comme on l'imagine. Et du coup, le site spécialisé blockchain.com, hein, qui comptabilise les transactions réalisées en crypto-monnaie, eh bien, il a annoncé que selon lui, près de 116 000 $ ont été versés vers certaines des adresses mentionnées dans cette espèce de hack génialissime, ou plutôt machiavélique, qui a touché du coup 130 comptes Twitter certifiés. Alors, si on rentre un peu dans le détail, évidemment, Twitter a reconnu assez rapidement l'incident, a verrouillé tous les comptes vérifiés, hein, qui ne pouvaient plus publier. Ils ont perdu possession pendant un moment de leur compte, avec évidemment une énorme question que tout le monde se pose, c'est que s'est-il passé du côté de Twitter? Comment est-ce que c'est possible? Comment le ou les hackers ont eu accès à ces comptes de très haut niveau, hein? Parce que là, on parle de comptes avec des millions et des millions d'abonnés.
Ouais, c'est clair.
Alors, dans un thread publié mercredi à jeudi, eh ben, Twitter a expliqué pas mal de trucs. Et ils ont expliqué notamment être victime d'une attaque d'ingénierie sociale coordonnée par des personnes qui ont réussi à cibler certains de leurs employés ayant accès aux outils internes. En gros, les hackers auraient accédé au back-office, aux outils d'administration de Twitter. Donc, c'est quand même assez sérieux. On se demande là aussi comment c'est possible. Est-ce que Twitter lui-même s'est fait hacker ses serveurs? Alors, il semblerait, hein, selon le site Motherboard, eh bien que les pirates aient eu accès aux espaces d'administration du réseau social grâce à une complicité en interne. Et ça, c'est quand même assez flippant et assez fou. Ça sent la série Netflix, hein, cette histoire,
ouais,
je trouve.
Un petit peu, ouais.
Et c'est du coup de cette manière, hein, qu'ils ont pu modifier l'adresse email associée au compte et puis en prendre le contrôle. En gros, quelqu'un chez Twitter a donné un accès aux outils d'admin de Twitter et permettant ainsi ce hack machiavélique, une sorte de complice de l'intérieur, avec quand même des trucs un peu flippants, hein. C'est qu'il y a un paquet d'informations confidentielles qui ont été rendues accessibles, évidemment, notamment toutes les infos perso, les adresses email, les numéros de téléphone, etc. Et puis il en va aussi de même pour les DM Twitter, tout ce qui s'est passé côté conversationnel. Oui. Attends, quand tu as accès au DM de
Barack Obama,
attends, il doit se dire des choses intéressantes. Pareil du côté de Kim Kardashian, j'imagine que c'est
deux trois deals,
voilà, que ça doit être craquignolé. Voilà, donc ça, un truc truc assez fou. Alors moi je ne peux pas m'empêcher de penser à un truc un peu, un scénario un peu à la Black Mirror, un truc qui irait encore un cran plus loin. Imaginons que demain des hackers qui soient pas seulement attirés par la thune, hein, mais qui soient peut-être attirés par une déstabilisation de l'ordre mondial ou politique ou géopolitique, se mettent à hacker des comptes d'hommes politiques, et notamment des comptes comme le fameux compte Twitter de POTUS de notre ami Donald Trump. Imaginons un instant que Donald Trump se fasse hacker, le risque de créer une guerre mondiale serait quand même assez dingue. Oui.
C'est clair.
Et donc, du coup, ça fait un petit peu cogiter. Voilà, je trouve cette histoire complètement folle.
Alors, je crois que c'est quand même souvent comme ça, hein, dans les cas de hack un peu important. Il y a souvent un homme de l'intérieur, une source, quelqu'un qui est dans la machine qui fait rentrer les autres. Mais c'est vrai que c'est, on va suivre ça. On va voir un petit peu comment ça va se passer la suite de ces infos sur Twitter. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. Moi, je vais vous parler de Disney. Disney, est-ce que tu sais, Thibaut, combien Disney a dépensé de budget pub sur Facebook entre janvier et juin 2020?
Ah, je pense quelques petites cacahuètes, hein, quand même. Hein,
210 millions de dollars, ce qui est quand même...
En plus, ils avaient le lancement de Disney+, donc ils ont dû claquer du blé.
Et oui, Facebook, Disney, pardon, était ultra actif sur la plateforme Facebook depuis le début de l'année, et notamment pour promouvoir sa fameuse plateforme de Disney+. Et là, je sais que toi, en tant que papa converti, averti, tu es un adepte de Disney+.
Alors, peut-être pas un adepte, mais j'ai pris, pendant le confinement oblige, j'ai pris un compte Disney+. Voilà, y est, on a poncé tous les grands classiques.
C'est normal, c'est classique. Mais du coup, là, tout va changer, puisque si Disney claquait un max d'oseille sur Facebook depuis le début de l'année pour lancer sa plateforme Disney+, eh bah, Disney vient à son tour de rentrer dans le rang de ceux qui boycottent, de ces grandes entreprises qui boycottent Facebook, en tout cas son publicitaire. Alors, c'est vrai qu'on en parle vraiment beaucoup depuis quelques temps, hein, c'est un sujet qui revient pas mal, même dans le Super Daily, et on se pose dans la question de est-ce qu'il faut qu'on en parle autant, est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses plus intéressantes à raconter. Mais là, quand même, je me suis dit Disney, c'est énorme. Et puis, c'est pas que Disney, c'est quand même quelque chose d'assez unique qui est en train de vivre le monde du social media. Il y a les premiers, hein, comme North Face ou Patagonia, mais il y a des marques énormes comme Microsoft, Coca-Cola, Starbucks et maintenant Disney, qui est un des plus gros annonceurs de la plateforme Facebook sur le début de l'année 2020 et qui s'ajoute à cette liste de boycotteurs. En tout cas, de marques qui arrêtent de dépenser du budget publicitaire sur la plateforme. Disney est aussi propriétaire de Hulu, H-U-L-U, je ne sais pas si tu connais,
oui,
qui est un site américain de VOD. Et Hulu stoppe, pareil, hein, du coup, Hulu stoppe son apport publicitaire sur la plateforme Instagram, puisque c'est surtout sur Instagram que Hulu était présent. Mais je trouve ça assez intéressant quand même, puisque là, Disney, c'est énorme et on a un mastodonte de plus des marques internationales qui commencent à boycotter Facebook. Donc, on va continuer à suivre ce fil rouge qui est un peu, j'ai l'impression, le fil rouge de l'été. Alors, on a envie de savoir comment ça va se terminer.
L'apocalypse.
Est-ce que Facebook va faire une marche arrière vraiment? Est-ce que ces marques-là vont juste boycotter un mois et puis au final, après, c'était plus pour l'image que pour autre chose? J'ai envie de dire réponse dans la prochaine Summer Session, hein, presque. Ben, hein, on a l'impression qu'on va en reparler.
On vous tient au jus de qui boycotte la liste s'allonge. Effectivement, des boycotts pour Zuckerberg étaient compliqués, en tout cas début d'été compliqué. Ceci étant, ça n'empêche pas Facebook de faire du nouveau, de sortir des nouvelles fonctionnalités, avec cette fois-ci une fonctionnalité concernant les clips musicaux dans Watch. Alors, Facebook va continuer et continue depuis quelque temps à bosser son interface Watch. C'est rigolo, Watch, hein, c'est un peu le YouTube de Facebook.
À l'intérieur de Facebook.
Voilà, c'est un espèce de réseau social dédié à la vidéo, intégré au cœur de la plateforme. Sans doute que d'ailleurs, vous naviguez dans Watch de Facebook sans vraiment vous en rendre compte. Moi, j'avoue, passer des heures et bousiller mes soirées d'été sur Facebook Watch. Et c'est assez bien fait, hein, mine de rien. L'algorithme est pas si mal fichu, avec quand même un point faible par rapport à YouTube, c'est qu'il n'y a pas de clip vidéo dans Facebook Watch. Pourquoi? Et parce que Facebook n'est jamais passé par les fameux deals avec les labels. Donc du coup, tu ne trouves que très peu de clips vidéo, ce qui fait aujourd'hui la richesse et la force de YouTube. Eh bien, Facebook devrait poursuivre sa guerre dans la vidéo en ligne en proposant très bientôt des clips vidéo dans Watch. Ils sont entrés en contact avec un certain nombre d'artistes musicaux et puis aussi avec leur manager, évidemment. Objectif, eh bien, concurrencer directement YouTube. Du coup, à partir du 1er août, eh bien, Facebook diffusera des clips musicaux sur son application aux États-Unis exclusivement pour l'instant. Et c'est la suite logique, en fait, finalement, pour le groupe Facebook d'une série de négociations avec les labels. Facebook avait déjà négocié avec l'industrie musicale à plusieurs reprises. Le premier, avec le droit d'utiliser des morceaux sur ces différentes plateformes. C'est pas pour rien que dans Instagram, tu peux utiliser cette petite fonctionnalité, tu sais, qui te permet d'avoir les paroles, etc., un peu en mode karaoké. Ou même, plus récemment, Reels, hein, qui intègre directement des hits et que, sur lesquels tu peux monter tes vidéos façon TikTok dans Instagram. Voilà, affaire à suivre. C'est vrai que demain, ça peut modifier un peu le paysage vidéo, parce qu'on le sait, pour YouTube, c'est aujourd'hui vraiment la porte d'entrée, hein, pour nombre de gens sur la plateforme YouTube.
D'ailleurs, je me pose des questions là-dessus, puisque tu sais que sur Instagram, la fonctionnalité dont tu parles, c'est un accord entre le groupe Facebook et Spotify, puisqu'en fait, tu utilises Spotify pour raccorder des morceaux dans tes stories ou dans Reels. Je me demande à quel point les lectures qui sont faites dans ces stories avec des sons, je sais pas moi, de Jul ou de n'importe qui, sont comptabilisées après dans les streams et rétribuées aux artistes qui sont utilisés du coup sur la plateforme. C'est une vraie question, parce qu'il y a quand même énormément d'écoute, hein, sur Instagram, je pense, pour des gros artistes, ça peut être assez énorme. Je sais pas comment c'est calculé.
Ouais, c'est une très bonne question. Et d'ailleurs, je suis pas si sûr que ça soit un deal exclusif avec Spotify. Je sais qu'initialement c'était ça, mais je sais pas exactement comment les choses tournent aujourd'hui.
Je sais qu'aujourd'hui, quand tu balances le son dans ta story Insta, c'est toujours indiqué en haut Spotify Music, donc ça passe par Spotify.
Quid de Reels, je sais pas. Donc là-dessus, si vous avez des infos additionnelles, hein, dites-nous sur les réseaux sociaux.
Moi, je vais vous parler de LiveMark, qui est un nouveau réseau social familial. Alors, c'est tout nouveau, hein, ça vient
comment
de sortir.
Comment ça s'appelle?
LiveMark.
Live comme...
L-E-A-V-E.
D'accord, ok.
Et je vous laisse, d'ailleurs, je vous ai mis le lien dans les notes, vous pouvez aller voir directement ce que c'est pendant que je vous raconte tout ça. C'est une sorte de gros coffre-fort sécurisé dédié aux familles, mais pourquoi pas aussi aux groupes d'amis. En gros, les concepteurs de ce nouveau réseau ont remarqué qu'on avait tous plein de photos, de documents qu'on perdait de temps en temps parce qu'on les laissait on les stockait dans un drive d'un côté, dans un cloud de l'autre, dans un disque dur externe, etc., etc. Et ils se sont dit, il faudrait qu'on crée quelque chose pour centraliser tout ça, et notamment au niveau familial. Par exemple, quand on peut ouvrir un compte où toute la famille a accès, donc les grands-parents, les parents, les enfants, petits-enfants, etc., les cousins, et tout le monde a accès à cette espèce de norme drive où dessus on va stocker les documents, les photos, livrets de famille, tout ce qu'on a envie de partager dans la famille, on va le stocker là-dedans. Et puis jusque là, tu vas me dire, rien de révolutionnaire, ok, c'est un drive comme un autre. Mais là où il y a déjà une proposition un petit peu originale, c'est qu'il y a un arbre généalogique à l'intérieur, donc qui te permet déjà de retracer un petit peu ta famille. Et si t'as un cousin qui se rajoute sur l'application, il va pouvoir rentrer dans ta famille et tu vas pouvoir lui donner des accès à certaines parties de ce drive pour qu'il ait accès à ses documents de famille. Et là où il y a vraiment une vraie originalité, je trouve, c'est que LiveMark a décidé de ne pas commercialiser les données personnelles des gens qui s'inscrivent sur son application. Donc, elle s'engage à pas commercialiser ses données personnelles.
Jurer craché,
ouais. Ce qui est pas le cas quand même de toutes les plateformes actuelles. Par contre, ça a un coût tout ça, parce que l'inscription est gratuite, mais si elle revend pas d'informations personnelles, comment elle gagne de l'argent, vous allez me dire. Et du coup, pour accéder à tout un tas d'options un peu plus premium à l'intérieur de l'application, il va falloir payer, il va falloir s'abonner, ce sera pas gratuit. L'inscription, elle est gratuite, mais après, si on veut par exemple agrandir l'espace de stockage, si on veut accéder à de nouvelles fonctionnalités, il faut payer pour arriver à ces options premium. Moi, en tout cas, je trouve que c'est une super idée. Et puis en plus, c'est un modèle économique du réseau social qui change un peu des gros mastodontes habituels et qui fait écho aussi à tout ce qui se passe en ce moment dans le monde des médias sociaux sur l'utilisation des données personnelles. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant de voir comment ça va évoluer ce réseau social LiveMark, sachant que là, je dis que c'est familial, mais vous pouvez très bien être un groupe d'amis, je ne sais pas, de 10 copains à qui vous avez envie de partager des souvenirs tous ensemble et de manière protégée. Et pourquoi pas vous inscrire là-dessus.
Ok, intriguant. Alors, moi, je vais revenir du plus consensuel, puisque je vais vous parler d'Instagram. Instagram qui
shopping.
Va ajouter... Exactement, tu m'as vu venir. Instagram qui va ajouter un bouton boutique dans la barre de menu. Voilà, Instagram teste en ce moment. Hein, l'ajout de ce nouveau bouton dans la barre principale de menu de l'application. Tu sais, en bas où tu as tes petites icônes pour aller voir mon profil, etc. Là, ils vont mettre... apparemment ici un petit panier,
un endroit important, hein.
Un endroit pour le coup super visible qui va pointer vers Instagram Shop. Alors Instagram Shop, c'est un petit peu le explore du social commerce, hein. Cet espace, il met en avant des recommandations de produits personnalisés pour chaque utilisateur en fonction des comptes qui suivent. Donc si tu suis, je sais pas, le compte de Pinel, le compte de Aigle, etc., bah tu vas retrouver les produits des marques que tu suis. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis évidemment, quelques suggestions au milieu, mais en tout cas, un feed dédié au shopping rien que pour toi. Et je trouve ça cool. Je vois très bien comment, quand tu suis des comptes Insta, bah, tu as aussi une typologie de comptes qui sont des comptes shopping, en fait, que tu suis au milieu des comptes de potes, au milieu des comptes inspirationnels qui te font kiffer. Il y a des comptes où tu as plus velléité à potentiellement un jour acheter. Donc là, tu vas tous les retrouver à un même endroit avec, évidemment, en ligne de mire, la toute prochaine étape qui consistera à faciliter le paiement. Hein. Instagram explique d'ailleurs à ce sujet qu'ils sont en train de déployer Facebook Pay dans les semaines à venir aux États-Unis. Donc, c'est imminent. Facebook Pay, qu'est-ce que ça va permettre? Eh ben, ça va permettre de... c'est un moyen de paiement
ouais,
sécurisé, de faire des achats directement dans les applications du groupe Facebook. De quoi faire d'Instagram, je pense, la destination des achats en ligne. C'est pour 2020, les amis, hein, le social commerce. Soyons prêts parce que ça va arriver très, très, très fort.
Ouais, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Moi, comme tous les étés, je vous raconte un peu des belles histoires sur les réseaux sociaux.
Ah, les histoires de Monsieur Chélide.
Alors là, c'est une belle histoire qui nous est racontée par le magazine Le Point sur son site. J'ai trouvé ça, je vous ai mis le lien. C'est l'histoire d'une femme originaire de Sète qui n'a plus de contact avec son fils depuis 20 ans. Alors là, vous me direz, bon, ok, c'est pas
là,
très fun.
Là, il faudra mettre en montage une petite musique dans le fond. Ouais.
Son fils est parti de la maison familiale à l'âge de 18 ans et depuis, plus aucune nouvelle, rien. Ça fait 20 ans qu'elle n'a pas de nouvelles de lui. Mais le 25 juin dernier, avec l'aide d'une amie, cette mère a retrouvé la trace de son fils dans un groupe Facebook. Le groupe s'appelle Je suis né à Sète. C'est un groupe classique, hein, de partage de bons plans autour de la ville de Sète, dont est originaire du coup la maman et le fils qui étaient partis. Le 25 juin dernier, une amie elle la prévient et lui dit qu'elle aurait trouvé son fils sur ce groupe. Ni une ni deux, la mère s'ajoute au groupe et reprend contact. Et depuis, tous les jours, ils échangent sur Facebook. Elle a repris contact avec son fils et ils devraient se revoir cet été après 20 ans.
Moi, la première chose que je fais, c'est lui mettre un savon de ouf en disant qu'est-ce que tu fous, quoi. Sans déconner, quoi. Le petit fugueur, quoi.
En tout cas, je trouvais que c'était une histoire mignonne. Ouais. Et voilà, c'est une double retrouvaille par les réseaux sociaux. Si ça n'existait pas, ils ne seraient peut-être jamais revus.
C'est mignon, très bien. Allez, je termine avec un ultime outil. On sait que vous aimez bien quand on vous partage quelques petits coups de cœur et puis des tools aussi. Alors, je vous partage très volontiers Trash. C'est une application qui s'appelle Trash et elle permet de réaliser, tu sais, ces petits montages vidéo artistiques, abstraits, enfin surtout des montages vidéo ultra fastoche, hein, qui se font en 3 minutes montre en main,
yes,
grâce à une intelligence artificielle. En gros, comment marche cette application? Tu ouvres l'appli, tu sélectionnes les 15, 20, 30 vidéos que tu kiffes, qui sont dans ton mobile, tu les sélectionnes et puis l'application Trash, elle se démerde pour faire elle-même un montage un peu clipesque, un peu mis
cool,
tout bout à bout, avec quelques petits effets de transition bien pensés. T'as plusieurs options qui te permettent de faire ton montage. Et franchement, ça tient carrément la route. L'intelligence artificielle arrive à trouver dans une séquence vidéo d'une minute le moment cool où il se passe vraiment quelque chose. Et mis bout à bout, et t'arrives très rapidement à faire ces espèces d'ambiances vidéo, des espèces de moodboard en mouvement qui marchent bien et qui racontent bien, par exemple, un backstage sur un événement qui raconte bien, je sais pas, une semaine de vacances résumée à tes potes. L'outil s'appelle Trash. Pardon, excusez-moi. C'est ultra cool et ça permet du coup de faire ces espèces de vidéos abstraites, clipesque, un peu inspirationnel. J'aime beaucoup les mash-up vidéo. Je sais pas comment on appelle ça, en fait.
Moi, je trouve surtout que c'est un gain de temps incroyable. C'est très fastidieux, le montage vidéo. Et puis, alors, si vous êtes pas bon, vous pouvez arriver à des résultats de montage vraiment très moyens. Là, quand c'est pas votre truc et que vous avez envie, en tout cas, de gagner du temps et de faire des choses très propres en peu de temps, vous balancez tous vos rushs dans ce petite application et ça vous ressort un truc vraiment, vraiment quali, je trouve.
Voilà, donc c'est disponible que sur iOS pour l'instant, Trash, qui permet du coup de faire des collages de contenu vidéo sans narration. C'est ça qui est marrant, c'est que ça soit sans narration.
Oui.
Voilà.
Bah, j'ai envie de dire que si vous avez d'autres news de la semaine, n'hésitez pas à venir les partager. Bah oui, n'hésitez pas à venir les partager avec nous. En tout cas, les autres news @supernatif sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, LinkedIn, TikTok ou même Pinterest. Et puis, vous écoutez ce podcast sur une plateforme de podcast. Alors, n'hésitez pas à la partager avec vos amis, à nous mettre un petit commentaire, à nous mettre une petite note. Vous avez des petites étoiles, vous pouvez nous mettre une note, ça nous
fait super
plaisir.
Et puis, si vous êtes en vacances, envoyez-nous des cartes postales.
Ça fait plaisir aussi.
Ou des petites photos là, sur les réseaux. De la plage, la montagne, peu importe là où vous êtes, ça nous fera plaisir d'avoir de vos nouvelles.
Ça nous fera rêver un petit peu. Allez, ciao,
la
ciao, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, ciao.